This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 aujourd'hui au Maroc, au Canada, en Italie, trois étapes ailleurs dans le monde pour le journal de l'international de Michael Thébault. Chronique cinéma, signé Eva Bétan, 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier sur le pape François. Mais tout de suite, l'Europe au défi de la crise des réfugiés.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Image stupéfiante hier dans la principale gare de Budapest où des milliers de réfugiés cherchaient à monter dans des trains pour rejoindre l'Autriche ou l'Allemagne. Refoulés sur le parvis de la gare, la foule criait « Germany, Germany » quand d'autres arrivaient en Allemagne criaient « Thank you Germany, merci l'Allemagne » qui a décidé de ne plus renvoyer ces réfugiés dans le premier pays de l'Union où ils ont mis les pieds. C'est un renversement majeur impulsé par Angela Merkel, renversement en deux points. D'abord, accueillir largement les réfugiés donc, et ensuite renvoyer les pays membres de l'Union à leur propre responsabilité. Le message est simple, ces réfugiés nous rappellent à la fois aux valeurs fondatrices de l'Union et à la fragilité de celle-ci qui pourrait se déliter, se disloquer si aucune réponse coordonnée n'est trouvée à la crise. Alors on va en parler ce soir avec trois eurodéputés, deux en direct de Bruxelles, Marc Tarabella de nationalité belge, Alliance des socialistes et démocrates au Parlement, Andreas Schwab allemand, PPE, c'est la droite du Parlement. Je vous salue tous les deux. Petit décalage dans la liaison satellite entre Bruxelles et Paris. Et ici en studio à Paris, l'eurodéputé français écologiste Yannick Jadot. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro de France Inter. Andreas Schwab, première question pour vous. Expliquez-nous pourquoi et comment Angela Merkel a pris cette position-là qui tranche sur toutes les autres en Europe.
Alors tout d'abord, quelle position Madame Merkel a-t-elle prise? Elle a dit que les réfugiés venant de la Syrie ne doivent plus être contrôlés comme les autres, car dans la procédure légale qu'ils doivent normalement poursuivre, à la fin, ils ont le droit de rester sur le seuil européen. Et donc, la décision prise est facilite un peu la procédure. Ça ne concerne pas tous les réfugiés. Mais si vous me permettez de dire en plus, peut faciliter la procédure des réfugiés. Mais ce qu'il faut faire maintenant aussi, c'est de prendre une position européenne. Et ce qu'on entend à Paris, à Berlin et dans toute l'Union européenne, c'est que l'Europe est en panne. Mais malheureusement, la responsabilité pour la politique d'asile, pour la politique des flux migratoires, reste encore dans la compétence des États membres. Donc il faut que les 28 États membres prennent action et agissent ensemble. C'est important en ce moment.
Avec une telle prise de position technique, nous dit Andreas Schwab, pour une partie, mais aussi morale et politique, Yannick Jadot, l'Union devrait se réveiller, non ?
L'Union, la Commission européenne a tenté très vite d'ouvrir un débat justement sur une juste répartition des réfugiés, surtout sur le fait de dire on va pas ignorer ce qui est en train de se passer, il faut arrêter de mettre la tête dans le sable, c'est des centaines de milliers de réfugiés qui vont arriver en Europe, qui arriveront de toute façon, quels que soient les murs et les barbelés, et donc on peut plus laisser la charge, le fardeau de ces réfugiés à l'Italie, à la Hongrie ou à la Grèce. Et donc la Commission européenne a pris ses responsabilités. Mais ce sont les États qui, malheureusement, aujourd'hui, sous pression des extrêmes droites, au fond, n'arrivent pas à assumer l'histoire, n'arrivent pas à assumer, au fond, notre part d'humanité à l'échelle de l'Europe. Madame Merkel est en train de le faire. La classe politique allemande est en train de le faire, y compris, elle veut casser l'extrême droite qui est naissante sur ces sujets-là, alors qu'une bonne partie de la classe politique européenne est en train de se lepéniser, j'allais dire, en tout cas dans les esprits, n'arrive pas à affronter leur opinion publique, n'arrive pas à dire la vérité et n'arrive pas à dire qu'au fond, encore une fois, on est face à l'histoire, que des centaines de milliers de réfugiés sont là, ils vont arriver, qu'on est co-responsable de cette situation et qu'on doit construire leur arrivée, leur accueil, leur intégration et non pas, encore une fois, faire la course à Le Pen en essayant de se poser les bonnes questions.
Marc Tarabella, comment avez-vous reçu cette prise de position d'Angela Merkel? Je rappelle que vous êtes eurodéputé belge, Alliance des socialistes et démocrates au Parlement. Il y a une dimension morale, il y a une dimension politique, il y a aussi une dimension d'habileté, dire que la crise des migrants, ce n'est pas seulement gérer des étrangers, gérer les autres, mais que c'est aussi une crise pour nous. C'est une crise qui nous pose à nous, Européens, des questions.
Ah, très clairement. D'abord, à votre question, je réponds très clairement que la position de Mme Merkel de ces derniers jours est évidemment une excellente nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend depuis plus de 2 mois, 3 mois, ben c'est l'Europe qui n'est pas à la hauteur, l'Europe, c'est 3 institutions. C'est la Commission européenne, c'est le Parlement et c'est le Conseil, donc l'ensemble des gouvernements européens. Le Parlement avait pris position, et Martin Schulz l'a rappelé pendant l'été, son président l'a rappelé pendant l'été à plusieurs reprises. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et Mme Mogherini avaient pris une position, ça a été rappelé, notamment par Yannick Jadot. Et c'est les gouvernements qui traînaient et qui ne prenaient pas de position et qui refusait une solidarité et qui ne voulait pas répartir, je dirais, la charge des réfugiés de manière solidaire entre les États membres et ne pas la laisser, comme vient, on vient de le dire, sur les épaules des pays qui sont en première ligne. Et donc, clairement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, au niveau européen, on a un devoir humanitaire, on a une responsabilité, on a quand même toléré des dictatures à nos portes et on a quand même pas combattu des régimes dictatoriaux, on les a laissés se développer pendant des dizaines d'années et puis quand ces gens sont renversés, ben, ce sont eux-mêmes qui ont suscité l'opposition virulente aujourd'hui qui nous pose évidemment beaucoup de problèmes. Mmh. Je parle du radicalisme musulman, du fondamentalisme dans pas mal de pays et aujourd'hui ben, il faut assumer cela et de manière partagée. Et donc, clairement, la position de Mme Merkel va probablement changer la donne. Plusieurs voix s'élevaient pour cette solidarité, mais de fait...
C'est la seule qu'on a entendue, hein.
Je vais taquiner mon collègue Andreas Schwab. On a exactement les mêmes idées à cet égard-là, mais dans la famille du Parti Populaire, il y a aussi M. Orban qui dresse un mur à la frontière avec la Serbie, et ça, c'est évidemment la contre-réponse contre laquelle il faut essayer de lutter. Ouais. Et pour l'instant, ben, ouais. Mme Merkel a donné une très bonne réponse et il faut soutenir cet
effort. Encore une question... Andreas Schwab, sur l'Allemagne, comment expliquer que cette position-là vienne de chez vous, de votre pays, et soit portée par la chancelière ?
Je pense qu'on peut voir qu'il y a une grande majorité des réfugiés qui viennent à travers des pays de l'Union européenne, où il devrait, d'après le système de Dublin, être pour la première fois pris en considération, mais malheureusement cela ne se fait pas. Ils viennent en Allemagne. C'est pas juste. D'après le système de Dublin, les pays comme la Grèce ou l'Italie devraient faire plus pour accueillir les réfugiés. Mais comme ils viennent, il faut maintenant trouver une solution à ceux qui viennent. On ne peut pas se critiquer l'un l'autre. Il faut trouver une solution. Et c'est au fond et au cœur de la proposition de Mme Merkel. Mais pour trouver une solution, je pense qu'il faut faire plusieurs choses. Il faut aussi assurer que les États dans lesquels viennent les réfugiés d'abord prennent plus des responsabilités pour les intégrer, pour les accueillir, pour trouver une pièce d'identité, pour chercher ceux qui sont vraiment des réfugiés et pour repartager ceux qui viennent pour d'autres raisons. Par exemple, un certain nombre, au moins en Allemagne, 50% des réfugiés qui viennent sont des gens des Balkans, des pays qui veulent devenir membres de l'Union européenne, qui n'ont pas, de notre point de vue, le droit de venir comme chercheurs d'asile. Et il faut trier. Et ceux qui restent, il faut en solidarité les mettre dans tous les États membres de l'Union européenne. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par M. Tarabella. Il faut de la solidarité. Là, et tous les États membres doivent prendre leurs responsabilités.
Donc ça veut dire quotas et clés de répartition par pays, Yannick Jadot, comme ça a été proposé il y a quelques mois et refusé dans un bel entrain et une belle unanimité ?
Absolument. D'ailleurs, c'est ce que met en place l'Allemagne depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fonction des richesses des différentes régions, les réfugiés sont répartis. C'est effectivement ce qu'il faut faire à l'échelle européenne. La France est en train de faire un peu mieux. On n'est pas au niveau de l'Allemagne en termes d'engagement politique. La France est en train de faire un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on est face à des pays qui ont des positions totalement absurdes. Regardons la Grande-Bretagne où Cameron dit carrément « Moi, je veux pas un seul réfugié syrien sur mon territoire ». Regardons la Pologne, alors que ces deux pays ont fait la guerre avec Bush et ont créé le chaos au Moyen-Orient. Ils ont créé le chaos et aujourd'hui, ils veulent pas du tout en assumer les conséquences. Donc, il va falloir, et c'est un peu la menace qu'a mis un peu en scène Mme Merkel, c'est de dire attention. Parce que les pays d'Europe de l'Est, aujourd'hui, vous semblez bloqués sur la participation à l'effort européen. Mais vous êtes les principaux bénéficiaires, aujourd'hui, de la mobilité au sein de l'Union européenne. Et vous avez été bénéficiés à votre libération du monde communiste. Ou alors, quand il y a eu des interventions soviétiques,
dans leur pays, vous avez énormément bénéficié des capacités d'accueil de l'Europe. Donc il faut être capable de regarder l'histoire, et puis en fait d'assumer collectivement. Il y a un moment où il va falloir dépasser l'idée qu'il faut simplement mettre des barrières et traquer les passeurs. Parce que plus on mettra des barrières et plus il y aura de passeurs et plus il y aura de misère et plus ça sera compliqué. Tous les cas réussis d'intégration, de gestion des réfugiés, c'est toujours la même chose. Il faut bien les accueillir, il faut leur apprendre la langue du pays d'accueil, essayer de les intégrer. Et à partir de là, de toute façon, si à un moment la situation se règle en Syrie, eh ben évidemment, beaucoup de gens voudront repartir en Syrie. Mais il faut les gérer comme ça.
Est-ce qu'il y a, Marc Tarabella, eurodéputé belge, je le redis, une véritable menace sur la libre circulation à l'intérieur de l'Union et à l'intérieur de l'espace Schengen? C'est ce qu'a dit Angela Merkel. Si nous ne parvenons pas à régler collectivement ce problème, c'est ce principe fondamental de l'Union qui risque d'être mis en cause.
Il faut préserver ce principe de libre circulation des citoyens au sein de l'Union européenne. On s'est battu pour ça. Les frontières entre les pays signataires, il y en a 26 aujourd'hui, mais au départ, il y a eu 5 pays, et puis 8 depuis 85, les accords de 90. Et donc, clairement, on doit le préserver. Et pour le préserver, ces accords prévoient aussi des mécanismes de plus grande sécurité. Quand il y a une menace, ça a déjà été actionné par les États membres dans le passé. Et ce qu'il faut peut-être, c'est renforcer la sécurité aux frontières extérieures, la sécurité et la surveillance aux frontières extérieures, bien sûr, sans pour autant créer une forteresse. L'Europe ne doit pas être une forteresse. Mais d'un autre côté, elle doit aussi se préserver contre des migrations qui ne sont pas celles de réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient la misère, la guerre. Donc ceux-là, évidemment, doivent pouvoir trouver une réponse humanitaire au sein de l'Union européenne, je le répète. Mais Schengen, ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain, tourner le dos à Schengen. Schengen est une des avancées européennes, il y en a d'autres, mais la libre circulation des biens, des services et surtout des gens est quelque chose qui est fondamental et auquel on doit tenir à la prunelle de nos yeux, parce qu'effectivement, l'esprit européen risquerait de disparaître si on devait remettre en cause Schengen.
Andreas Schwab, eurodéputé allemand, PPE, la droite du Parlement, comment vivez-vous la cohabitation de fait avec Viktor Orban, qui, lui, est vraiment sur une autre ligne, considérant la question des réfugiés?
Alors, en ce qui concerne la politique de Monsieur Orban, il faut toujours être très concret et très précis. La frontière qu'il a fermée, c'est une frontière extra-européenne. Donc, si
petite coupure et petite interruption avec Bruxelles. Je posais la question à Andreas Schwab, Yannick Jadot, de la proximité de fait avec Viktor Orban dans la grande famille du PPE. Il y a des tiraillements extrêmement forts à l'intérieur de ces familles, même si ce qu'on entend là ce soir au micro de France Inter, c'est plutôt une sorte de consensus, quels que soient vos engagements aux uns et aux autres.
Oui, mais en même temps, c'est le choix de vos invités. Je veux dire, vous n'avez pas pris la droite britannique, vous n'avez pas pris les sociaux-démocrates slovaques qui, eux, disent « nous, on veut que des réfugiés chrétiens ». Enfin, je veux dire, on est dans l'absurdité absolue et la remise en cause des principes même de l'Union européenne. Donc, est-ce que Mme Merkel, dont on sait la puissance de frappe politique à l'échelle européenne, qui a été beaucoup critiquée sur le dossier grec, il faut le dire, va être capable aujourd'hui, encore une fois, de mettre les dirigeants européens face à l'histoire? Enfin, on est quand même dans un cycle de migration nouveau et on ne peut pas justement vouloir l'ignorer, le contourner et tout ça. Donc on a créé des situations. La France a participé à l'intervention en Libye, ça a été régulièrement rappelé. Ça a quand même dégénéré parce que ça a été mal fini par un chaos absolu. On sait ce qui se passe en Érythrée, on sait ce qui se passe à nos frontières. Donc on ne peut pas s'extraire du monde et que revenir sur l'espace Schengen, ce serait au fond donner raison à tous les souverainistes, à tous les nationalistes, à tous ceux qui vivent sur le repli nationaliste, sur le repli identitaire. Ce serait donner raison à Madame Le Pen, à tous ses collègues à l'échelle européenne. Ça peut pas être ça notre solution.
Et ça vous fait quoi d'être débordé sur votre gauche par Angela Merkel ?
Écoutez, j'ai l'impression...
Vous prenez avec pragmatisme.
Je prends parce qu'il y a aussi une tradition chrétienne allemande et que, au fond, je crois que, vous savez, regardez ce qui s'est passé dans les grands mouvements migratoires de l'histoire, y compris des retournements de personnalité. Souvenez-vous, la statue de la liberté a été offerte aussi aux États-Unis pour les remercier d'avoir accueilli tant de réfugiés européens qui fuyaient la misère. Et vous vous souvenez que Roosevelt, en 39, refuse, le grand Roosevelt, il refuse le bateau, le Saint-Louis, vous savez, l'un des derniers bateaux qui fuit l'Allemagne avec des Juifs, et qui, on est en 39, donc on sait déjà la réalité des camps de concentration. Et Roosevelt refuse que ce bateau vienne livrer des réfugiés juifs aux États-Unis. Et après, on a changé. Donc, il y a un moment où ça résiste. Il y a un moment où on ne veut pas affronter les opinions publiques. On a l'impression de les caresser dans le sens du poil. Et puis, il y a un moment où tout le monde se met en branle. La classe politique et, j'espère, la classe médiatique. Parce que moi, je fais un appel à France Inter. Il faut que France Inter prenne le leadership avec d'autres radios, peu importe qu'ils soient concurrents ou pas. Mais pour dire, comme en Allemagne, accueillons-les. C'est notre responsabilité historique. On peut pas continuer les médias, et je sais que vous êtes sensible à ça, Nicolas Demeurant, on peut pas continuer les médias à dire, allez, on invite le pour, le contre, le oui, le non, et on prend les plus extrêmes parce que ça bastonne un peu. Non, là, il y a une responsabilité historique. Votre rôle est d'informer l'opinion publique, de dire à quel point il faut accueillir, et que France Inter lance cet appel avec ses consoeurs, ses confrères de la radio, pour que la France, comme l'Allemagne, devienne un grand pays avec de fortes valeurs.
Ben, l'appel, vous l'avez lancé, Yannick Jadot, au micro de France Inter. Andréa Schwab, ce que vient de dire Yannick Jadot est vrai. En Allemagne, cette position prise par Angela Merkel a reçu le soutien, on en parlait dans l'émission de la Bild-Zeitung, qui est quand même le grand média de toute puissance en Allemagne, qui est un média populaire, et dans ma bouche, ça n'a évidemment absolument aucune connotation négative, et qui a donc eu en fait la rencontre entre la sphère politique et la sphère médiatique et un accord de fait sur une politique ou une attitude à avoir à l'égard des migrants.
Oui, mais les migrants, c'est vrai, mais je pense qu'il faut faire une différence. Les gens qui viennent des pays où il y a la guerre, comme la Syrie ou d'autres, qui ont vraiment derrière eux une fuite, il faut leur aider. Ça, c'est évident, de mon point de vue, en Allemagne et en plus en France, de mon point de vue. La plupart des gens est totalement ouvert à partager les choses, à les accueillir et à aider. Mais il faut faire en sorte qu'on ne met pas ensemble d'autres gens qui sont aussi des migrants pour des buts qui peuvent être compréhensibles, mais qui ne sont pas dans le cadre de la loi. Et donc, je pense, les gens qui viennent des Balkans, qui dans des pays qui ont vocation à devenir membres de l'Union européenne, il faut aussi trouver des solutions à arrêter les flux des gens qui viennent de ce parti-là pour avoir la capacité d'accueillir les gens qui sont vraiment des réfugiés.
Marc Tarabella, votre point de vue, votre analyse ?
Mais mon analyse, je n'ai pas tout entendu ce qu'a dit Yannick Jadot avant en réaction à Andréa Schwab parce qu'on a été coupé un petit peu. Mais cela étant dit, il n'y a pas que des réfugiés, des candidats réfugiés légitimes qui seraient syriens. La Syrie, bien sûr, mais il y a aussi l'Irak, il y a la Libye, il y a le Nigeria, où il y a quand même aussi des Boko Haram qui sévit, qui menace, qui tue. Et donc, clairement, il y a tout notre voisinage est, je dirais, à feu et à sang. Et donc, effectivement, il faut une sélection entre ceux qui fuient la guerre, qui fuient et qui veulent sauver leur peau. Et il doit y avoir une réponse appropriée. Et très clairement, je ne peux pas partager l'idée qu'on puisse comprendre Orban, Viktor Orban, qui est un provocateur depuis plusieurs années, mais ici, il franchit les limites. Parce que là, il fait vraiment l'Europe forteresse. C'est certes la frontière avec la Serbie, mais il faut apporter d'autres réponses. Et à un moment donné, quand les gens arrivent, ils doivent être accueillis et soit ils sont et on examine leur dossier, et soit ils sont admis, ils sont réfugiés politiques, et soit ils ne sont pas admis, et alors à un moment donné, ils ne sont pas admis au sein de l'Union européenne. Mais clairement, on doit examiner dossier par dossier et accueillir ces gens qui font des milliers de kilomètres à pied ou dans les embarcations de fortune, dont malheureusement 6000 sont morts cette année en Méditerranée. Il faut quand même le rappeler. Je crois que ces gens ne quittent pas leur pays par plaisir, et donc la réponse doit être humaine, humanitaire, raison garder, effectivement, et faire un accueil à ceux qui fuient la guerre.
Et il doit y avoir, Yannick Jadot aussi, j'imagine, une politique étrangère européenne qui permette de traiter les problèmes de réfugiés à la source ou en chemin, avant même les frontières extérieures de l'Union.
C'est une évidence, c'est une évidence. Aujourd'hui, on voit à quel point, pour ce qui concerne le Moyen-Orient, y compris la question du pétrole, reste une question essentielle. On combat l'État islamique, on combat Daesh, sans combattre ses ressources de revenus, le pétrole par exemple, sans combattre le fait que Daesh contrôle des banques qui agissent sur toutes les places financières mondiales. Et ça, on n'y touche pas. Donc, on sait ce qui s'est passé avec Kadhafi et la Libye. On sait quand même que parce que le Qatar nous achète des armes et des rafales, on autorise ou on laisse le Qatar distiller la guerre en Libye et la déstabiliser ce pays depuis la Révolution. Donc évidemment, il faut une politique commune parce que tout notre voisinage, on ne pourra pas échapper à notre voisinage. Ça n'existe pas, l'Europe qui se protège, qui ferme ses frontières et qui ne regarde plus ce qui se passe dehors. Donc comme on doit l'assumer, eh ben autant le faire avec intelligence, autant le faire avec envie que ça se passe bien. Et puis vous savez, quand on s'est battu pendant des années, des mois pour traverser des déserts, qu'on a été violenté, racketté dans des situations extraordinairement difficiles, on est une source incroyable de richesse pour le pays dans lequel on arrive, parce qu'on a de l'énergie, on a envie de vivre, on a envie de faire des choses. Et que, quand j'entends Madame Le Pen dire qu'au fond, ces gens qui fuient les bombardements chimiques en Syrie, ils viendraient pour profiter de la CMU en France, c'est totalement débile. Donc il faut aussi prendre ça comme une source incroyable de richesse pour l'Europe et de dynamisation de notre société.
D'autant qu'on sait que ce sont très souvent les membres des classes moyennes de ces pays qui prennent la route avec tous les risques que vous venez de décrire. Merci Yannick Jadot, eurodéputé écologiste français. Merci à Marc Tarabella de Belgique, Alliance des socialistes et démocrates au Parlement européen. Andrea Schwab, eurodéputé PPE, c'est la droite de ce même Parlement. Un dernier merci immense à Quentin Dickinson, notre correspondant permanent à Bruxelles. Climat, la guerre de l'ombre, Yannick Jadot, est le titre de votre dernier livre publié aux éditions Le Passager clandestin. À suivre, 18h39, le journal de l'International, Azaf Avidan. C'est France Inter que vous écoutez. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. For one, I'm sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this.
It's crystal clear. I wasn't here. I'm not a part of this.
Part of this. Azaf Avidan, il est 18h42.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, le petit journal de l'international. Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
On part tout de suite au Maroc, Mickaël, où 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes après-demain, vendredi.
Oui, élections communales et régionales, et surtout Nicolas, scrutin à valeur de test démocratique avant les législatives de la fin 2016. Et les élections au Maroc, vous le savez, c'est toujours un peu compliqué vu de France. Alors justement, on va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir avec notre correspondante à Rabat, Anna Ravix, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelles sont d'abord les grandes forces en présence? Et du coup, Anna, quel est l'enjeu principal?
Alors, vous l'avez dit, ce genre d'élection communale, ça n'est jamais simple. Et là, typiquement, les Marocains vont devoir élire 24 655 membres de conseils communaux. Donc nous, on va simplifier un peu et on va se concentrer sur une circonscription de la capitale qui résume bien le débat national. On va parler des quartiers de Lagdal et de Hayariyad à Rabat. Et on va y retenir les trois listes principales qui s'affrontent. Un, la liste du parti islamiste au pouvoir, le PJD. Deux, le parti Authenticité et Modernité, le PAM, qui est un grand parti de l'opposition, dont on entend régulièrement dire qu'il est plutôt proche du palais. Et troisième liste, celle de la Fédération démocratique de gauche. Ce dernier parti, nous étions à son meeting hier soir. Il se présente comme une troisième voie, ni les islamistes, ni le palais, comme le soutient Omar El-Hiani. Il est candidat sur la liste de cette circonscription.
Au-delà de la première voie, qui est vraiment la voie du Makhzen, de l'institution au Maroc, la deuxième voie qui est celle des islamistes, aujourd'hui on est en train de reconstruire la troisième voie qui est celle d'une gauche démocratique qui lutte pour l'égalité sociale et une monarchie parlementaire au Maroc.
Anna, ce candidat parle de la voie du Makhzen, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors exactement, c'est difficile à dire car le Makhzen, c'est le nom qui désigne l'influence du pouvoir du palais dans les institutions marocaines. Donc c'est pas toujours très simple de l'identifier précisément. En tout cas, la troisième voie dont parle Omar, entre ce Makhzen et les islamistes, il estime qu'elle est un héritage direct du mouvement du 20 février, le printemps arabe marocain de 2011. Là aussi, petite explication nécessaire, je laisse faire Nabila Nib, c'est la présidente de la Fédération démocratique de gauche.
Le mouvement du 20 février, c'était hier, quoi. C'était des jeunes qui s'étaient présentés avec une plateforme assez sérieuse dans laquelle ils demandaient des réformes profondes pour notre pays, notamment des réformes politiques pour aller vers la démocratie. Ils demandaient plus de justice, plus de liberté, plus de respect, etc. Or, ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir, et nous avec eux. Parce qu'on s'attendait à avoir une constitution démocratique pour la première fois qui respecte le fondement même des constitutions démocratiques, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Ça n'a pas été fait.
Et justement, Anna, peut-on dire que le pari de ce parti, c'est grosso modo un printemps arabe institutionnel ?
Oui, c'est un peu le cas. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Et il a réussi justement à séduire pas mal d'anciens militants du 20 février. J'en ai rencontré hier. Ils refusaient de voter jusqu'alors car ils considéraient que les élections marocaines étaient une mascarade. Mais cette fois, ils vont voter pour ce parti qui milite très clairement pour une monarchie parlementaire. Mais attention, tous les anciens militants du printemps arabe marocain n'ont pas été séduits par cette démarche institutionnelle. Certains s'apprêtent justement à manifester devant le Parlement de Rabat dans quelques minutes pour appeler au boycott des élections.
Voilà, élections communales et régionales donc au Maroc ce vendredi et en direct de Rabat. Anna Ravix, merci Anna.
Et direction maintenant l'Italie avec l'ENI, le géant italien de l'énergie qui fanfaronne depuis trois jours, Michael.
Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Depuis dimanche dernier, le groupe pétrolier fait le tour de tous les plateaux pour fièrement annoncer qu'il a découvert en Méditerranée, dans les eaux territoriales égyptiennes, un immense gisement de gaz naturel. Mathilde Imberti, bonsoir en direct de Rome.
Bonsoir.
Alors est-ce, comme le prétend le chien à six pattes, hein, l'autre nom de l'ENI, est-ce une découverte si exceptionnelle que cela ?
Ah oui, c'est une découverte extraordinaire, la plus grande découverte de gaz jamais réalisée en Égypte et en mer Méditerranée, selon l'ENI. Alors, en potentiel, ce gisement qui a été baptisé Zohr représente 850 milliards de mètres cubes. C'est la garantie pour l'Égypte de couvrir ses besoins en gaz naturel pendant des décennies. Les premiers forages sont prévus début 2016 et les premières livraisons de cargaisons de gaz en 2017 au mieux. Alors, ce n'est pas une découverte fortuite, évidemment. L'ENI est implanté en Égypte depuis 60 ans. et elle détient 100% de la licence d'exploitation du site sur lequel a été découvert ce gisement. Elle avait remporté l'appel d'offres pour exploiter ce site début 2014.
Et pour l'Italie, Mathilde, ces découvertes vont bien au-delà d'une promesse énergétique.
Et oui, l'ENI est bien plus qu'un géant industriel, c'est un acteur en fait de la politique étrangère italienne. Jean-Pierre Darnis nous l'explique, il est chercheur à l'Institut des Affaires Internationales de Rome.
Alors l'ENI a toujours été une entreprise fondamentale pour la politique étrangère italienne. Certains disent même que l'Italie n'a pas de politique étrangère hors celle de l'ENI, ce qui est déjà considérable. L'Égypte n'est pas la priorité numéro un de l'Italie, mais c'est un pays qui compte dans ce contexte de stabilisation. Si je peux faire un petit aparté, l'Italie n'a pas peut-être d'avions à aussi, disons, nombreux à vendre dans ce contexte-là, mais par ses opérations de gaz et d'énergie, elle réussit à s'implanter sur le scénario, et donc l'Égypte rentre dans ce dessin-là.
L'investissement économique et la politique étrangère, on l'entend, sont liés. Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, ne s'en cache pas. Cette découverte de gaz naturel, dit Renzi, nous donne raison d'avoir investi dans ce pays, l'Égypte, au niveau économique et politique. Car avec cette découverte, l'Égypte va importer moins de gaz naturel, va remplir ses caisses. Et une Égypte plus forte économiquement sera en principe une Égypte plus solide politiquement. Pour l'Italie, c'est un enjeu majeur. L'Égypte est un partenaire dans la lutte contre le terrorisme, sa priorité. Du moment.
Mathilde Imberti en direct de Rome, merci beaucoup. Allez, pour finir, Nicolas, je suis sûr que vous vous souvenez de ça.
J'y ai dit bien. Vous allez me dire pourquoi j'y ai dit bien.
Alors, Coluche. Coluche, la chanson canadienne, évidemment. Eh bien, une autre chanson canadienne fait l'actualité en ce moment dans la belle province, et c'est celle-là. Who controls our parliament? Alors, je vous traduis sommairement. Qui contrôle notre Parlement? Harperman. Qui a torpillé la CBC, la radio télé canadienne? Harperman. Pas de respect pour l'environnement? Qui ça? Harperman. Et pour toi, il est temps de partir. Bref, chanson anti-Stephen Harper, le premier ministre canadien au pouvoir depuis 9 ans. Chanson écrite et interprétée par Tony Turner, qu'on entend. C'est un éminent scientifique du ministère canadien de l'environnement.
Pas mal.
20 ans qu'il travaille là-bas. Mais la chanson n'a pas du tout plu au premier ministre, qui vient d'avoir la tête du scientifique, chercheur, chanteur, tout simplement viré. Pas beaucoup d'humour, Harperman. À demain.
À demain, Michael.
Moteur. Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Non. Il est 18h50 et je suis comme au cinéma, je suis assis devant vous, Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous regarde, je vous écoute, vous m'emmenez voir quoi ce soir?
Vous savez, je ne recule devant rien, je vous emmène voir une réalisatrice chinoise qui est allée filmer dans une réserve indienne au Dakota du Sud. Le film s'appelle « Les chansons que mes frères m'ont apprises » et il est formidable tout simplement. Voilà. Les Indiens ont beaucoup souffert des stéréotypes, ça va des films de cow-boys jusqu'à présent, et bien elle s'inscrit complètement contre et elle se donne les moyens de cela. Sur 4 ans, elle aura vécu 18 mois dans cette réserve. Et elle a écrit, c'est une fiction, mais totalement basée sur la réalité. Elle est partie d'une petite histoire, un frère et une sœur. Le frère envisage de quitter la réserve. Et après, c'est les événements de la vie qui vont venir s'inscrire dans le scénario. C'est un regard non folklorique et en même temps, on va voir des choses totalement extraordinaires. Ainsi, cela commence, une des premières scènes dans une classe et il y a un professeur avec ses élèves. Question classique, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Mais quel professeur, quels élèves? Écoutez la rétrie, je ne vous ai pas dit son nom, Chloé Zhao.
Les gens là-bas vivent toujours près de leur terre. Les jeunes ne veulent pas travailler à Wall Street, mais élever des chevaux. C'est le vrai professeur que l'on voit. Je lui ai juste dit de demander aux enfants de dire ce qu'ils voudraient faire plus tard, et ce sont leurs vraies réponses.
Là, un serpent sur le bras.
Le serpent appartient au professeur. Il reste toujours dans la classe et les enfants ont l'habitude de jouer avec lui. Vous savez, je viens de Chine, de Pékin. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je ne me suis jamais senti lié à aucun lieu. Quand je suis arrivée à Pine Ridge, ça m'a fascinée et rendue jalouse de voir à quel point les gens étaient proches de leur famille, de leur communauté, de leur terre. C'est à cause de la jeune génération que j'ai voulu faire ce film. Je crois vraiment qu'ils sont la génération qui marque le tournant à partir duquel les choses vont aller mieux.
this generation owl.
Il y a une prophétie qui dit ça dans le film.
Yes, a black owl and crazy.
Oui, deux chefs indiens ont prédit que après le massacre des Indiens à Wounded Knee, quand arrivera la septième génération après ce massacre, les choses iront mieux à nouveau.
Everything will be better again. And the young people
et les jeunes de Pine Ridge sont cette génération. Je ne suis pas superstitieuse, mais j'ai vu une grande différence entre la génération de leurs parents et la leur.
Alors, ce n'est pas les petites maisons dans la prairie, elles n'occultent absolument pas les difficultés. Il y a l'alcool, il y a des suicides, il y a des choses très dures dans sa vie. Elle dit que les jeunes ont vécu des choses plus dures qu'elle dans toute sa vie. Et vous allez écouter un des deux jeunes qui est le héros du film. Il s'appelle John Reedy et ce n'est pas loin de sa vie en effet.
C'est important parce que...
Ce film est important parce que 70% de ce qu'on voit dans le film, c'est ce que je suis vraiment. Je monte des chevaux, mais moi je ne bois pas d'alcool.
Le portrait du père, c'est inspiré de votre père ?
Oui. Il fait des rodéos, il dompte des chevaux, c'est un cow-boy. Quand il était plus jeune, il était très bon.
Et il a plusieurs femmes et beaucoup d'enfants ?
Oui. J'ai le même nombre de frères et sœurs dans la vie que dans le film. 19. 10 frères et 9 sœurs. Tous du même père et de 9 mères différentes. C'est bien, c'est fun. Comme ça, il y a toujours quelqu'un pour prendre soin de vous.
La vie a l'air assez dure dans votre, là où vous vivez. Et pourtant, vous avez de la force.
Oui, ça peut être bien, mais ça peut être aussi très dur. Il y a beaucoup d'alcool tout autour, des suicides aussi. C'est pour cela qu'il faut être occupé, monter à cheval, être avec des amis, faire ce qu'il faut pour que ça aille.
C'est un film, je vous le répète, formidable. Il sort mercredi prochain, donc attendez, à mercredi la semaine prochaine, et il passe ce week-end au Festival de Deauville.
Merci Eva Bétan, il est 18h54.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Ce soir, vous nous parlez du pape.
Oui, chronique catholique. C'est une curieuse maladie qui frappe toute la planète. Chacun devient papiste, et vous aussi, depuis l'avènement du bon pape François.
J'avoue.
Qui l'aurait imaginé. Alors voici une nouvelle révolution que vient de faire le pape Jésus devenu d'Argentine. Mardi, Jorge Bergoglio a autorisé les prêtres à, je cite, « absoudre le péché d'avortement de tous ceux qui l'ont provoqué et qui le cœur repenti en demande pardon. » Voilà l'avortement pardonné, Nicolas, mais ne vous trompez pas. Pour être pardonné, il faut d'abord se repentir. L'Église n'autorise nullement l'interruption volontaire de grossesse, elle ne le fera pas. Mais suivant la parole du Christ, le pape accueille le pécheur. C'est cela la révolution Bergoglio. Il remet l'amour au-dessus des prétendues règles et autres commandements moralisateurs. Ainsi, il replace l'Église au milieu du village global.
Et il a révolutionné du coup la perception de l'Église.
Oui, il avait commencé spectaculairement son mandat en accueillant les homosexuels. Citation, si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger, avait-il dit. Là aussi, pas de révolution doctrinale, l'Église considère l'homosexualité comme un péché, mais elle accueille tous les hommes, à condition toujours qu'ils cherchent le Seigneur. Mais le changement d'attitude et de perception est décisif. Et cet été, rebelote, nouvelle révolution, le pape a expliqué que les divorcés qui ont refait leur vie sont, je cite, « ne sont pas excommuniés, elles ne sont pas excommuniées », répète le pape, et ne doivent absolument pas être traitées comme telles, elles font toujours partie de l'Église.
Donc ça y est, l'Église est à l'heure du 21e siècle.
Le pape, oui, l'Église, non, elle a beaucoup, beaucoup de mal à avancer, à sortir de sa position moralisatrice pour retrouver son message originel. L'an dernier, le pape a convoqué un synode, une réunion d'évêques sur la famille. Il voulait avancer sur les sujets comme l'homosexualité, le divorce, la contraception, l'avortement. Un projet de conclusion très progressiste a suscité la révolte intolée des évêques. Alors que faire quand votre hiérarchie refuse de vous suivre ou désavoue? Eh ben, c'est bien simple, vous la court-circuitez. C'est ce qu'est fait le pape qui a tactiquement réduit les ambitions du synode, prévenu il ne fallait pas avoir d'attente démesurée, mais il passe tranquillement au-dessus des évêques en multipliant les déclarations que je viens de vous citer. Bref, le pape agit en despote éclairé, mais c'est pour la bonne cause.
Et tout le monde le trouve parfait.
Mais non, le pape est la bête noire des conservateurs climato-sceptiques américains, lui qui s'est prononcé en faveur de l'écologie intégrale. Il est la bête noire des matérialistes dont nous sommes un peu, surtout vous. En Amérique latine, il a ainsi fustigé le capital érigé en idole, nous raconte Le Monde diplomatique. Il a appelé à se mobiliser contre cette dictature subtile, citation au Roland de fumée du diable. Mais lui, le pape, il tend la main, les rejetés d'hier sont accueillis, aussi bien les prêtres intégristes de la fraternité de Saint-Pédis, qui pourront faire des confessions valables, que l'évêque français Jacques Gaillot, bouté de son diocèse sous Jean-Paul II. Il a été reçu cette semaine au Vatican, et vous aussi, Nicolas, Nicolas. Qui sait, un jour, la leçon de catéchisme est finie.
Amen et merci Arnaud Le Parmentier, journaliste au quotidien Le Monde. Un mot pour vous rappeler qu'à 19h20, le téléphone sonne aura ce soir pour inviter l'historien Pierre Rosanvallon, un invité unique pour répondre à toutes vos questions sur cette étrange atmosphère démocratique dans laquelle nous vivons. Défiance à l'égard des gouvernants, sentiment que l'action politique n'est plus efficace, que les hommes et les femmes politiques ne se battent que pour être élus. Bref, émission sur ce désenchantement qui traverse nos vies de citoyens. Alors pourquoi la politique est-elle à ce point en crise? J'attends toutes vos questions. Le standard est ouvert, bien entendu. 01 45 24 7000. Si vous préférez passer par courriel franceinter.fr, vous pouvez passer aussi par l'application de France Inter sur votre téléphone portable et via Twitter avec le hashtag Telson. À suivre, le journal Sébastien Paour.